Vous écoutez France Culture.
Les hommes, ils aiment les femmes à hommes. Les femmes, elles aiment les hommes à femmes.
Si tu veux savoir pourquoi je ne t'aime plus, faudrait qu'elle me prenne au mot, la fille que j'aime.
France Culture se fait l'écho du forum Le Monde, Le Mans, qui s'est tenu au Mans les 16, 17 et 18 novembre dernier sur le thème « Amour, toujours ». Aujourd'hui, deuxième émission, « L'essence de l'amour ». Débat animé par Jean Birnbaum avec Claude Agege, linguiste, Fabrice Adjadj, écrivain, philosophe, et Valérie Gérard, philosophe.
Nous allons donc entamer cette deuxième table ronde du forum philo autour de cette question, donc amour toujours. Claude Agege, on peut dire de lui que toute son œuvre, qui est une œuvre de polyglotte, hein, vous allez le voir, eh bien, est inspirée justement par l'amour de la langue et l'amour des langues en général. Qu'il s'agisse de ses études très savantes sur tel ou tel dialecte parlé par exemple au Tchad, ou qu'il s'agisse d'essais de vulgarisation comme L'homme de parole, hein, ce livre que vous connaissez, qui est paru chez Fayard en 1985, ou plus récemment Le dictionnaire amoureux des langues, coédité par Plon et Odile Jacob en 2009. Eh bien, chaque livre de Claude Agege peut se lire comme une sorte d'ode aux langues en général, à leur diversité, à leur chair, à leur mystère aussi. Dans votre leçon inaugurale au Collège de France, Claude Agege, hein, puisque vous êtes professeur au Collège de France, vous commenciez par une question un peu provocatrice, vous disiez « À quoi sert, au fond, la linguistique ?» Et vous répondiez, au premier abord, « À rien. » Peut-être qu'on va voir, là, avec vous, qu'elle sert peut-être d'abord à chanter l'amour de la langue, et donc peut-être à y voir aussi plus clair quant à l'amour en tant que tel, quant à cet amour toujours qui nous intéresse pendant ces trois journées. Merci à vous, Claude Agege. Vous avez la parole.
Bien, il y a de grands textes sur l'amour qui vont certainement être cités ou qui ont été cités déjà ce matin, bon, depuis le banquet de Platon jusqu'au fragment de Roland Barthes, en passant par Stendhal, par Hugo, par Musset, par bien d'autres. Je ne vais pas faire état de ça parce que je suppose que c'est bien connu. Ce que je voudrais dire pour commencer, c'est que la traduction, qui est peut-être l'activité la plus ancienne de l'histoire de l'humanité, bien plus ancienne, je pense, que celle qu'un machisme vulgaire et insolent considère comme la plus ancienne. La traduction, donc, pourrait nous laisser penser qu'il n'y a pas de grande différence entre les langues, puisque tout ce que disent les langues sur l'amour est traduisible dans une autre, d'une langue à l'autre, et la traduction permet très facilement le passage. Néanmoins, chacune a sa façon particulière d'exprimer, et puisque nous sommes ici dans un milieu francophone, si on interroge le français, on peut donc avoir le verbe aimer lui-même, on peut avoir amour, aimer et être amoureux. Quelqu'un peut très bien dire à quelqu'un d'autre, à la suite d'une semi-rupture, « Je t'aime encore, mais je ne suis plus amoureux de toi. » Est-ce que ça veut dire que je n'ai plus envie de toi? Ou est-ce que ça veut dire mon amour a baissé d'intensité? Ça peut avoir différents sens. En tout cas, ce sont deux façons différentes d'exprimer les facettes d'un sentiment. Il y a tomber amoureux, il y a le désir, il y a la libido, il y a chérir, il y a la passion. Tout cela, je suppose, a été ou sera commenté mieux que je ne peux le faire ici, où je vais surtout exposer la diversité des langues humaines qui parlent de cette thématique, qui la mettent en mots. Il y a même un certain nombre d'œuvres littéraires qui traversent les cultures, les espaces, les temps. Et par exemple, tout le monde connaît le Kama Sutra de l'hindouisme et du brahmanisme. Tout le monde connaît les ouvrages, on a entendu parler des ouvrages de la vieille philosophie chinoise, de Krong Kru et de Xue Yan. Sur l'amour, il y est dit beaucoup de choses d'ordre érotique, par exemple, quelque chose d'intéressant. Les filles qui ont de gros seins sont plus désireuses d'amour que celles qui ont des tout petits seins. C'est écrit en toutes lettres dans le traité chinois. Il y a également ce besoin de libido, de désir, qui ne s'éteint pas avec la ménopause. Au contraire, il lui survit très bien, ni avec ce que l'on suppute être l'équivalent masculin, dans la mesure où ça peut être démontré par des signes cliniques un peu plus précis que ceux qui sont proposés, souvent par des médecins femmes, par désir d'équilibre et de justice, à savoir l'andropause, si elle existe. Bon, je ne dis pas qu'elle n'existe pas. Bon. En tout cas, le désir peut très bien lui survivre, d'après ce que l'on voit autour de soi. Bon, il y a également aimer, qui a des synonymes d'ordre social. Par exemple, dans un passage intéressant, amusant de Candide, Voltaire écrit que Candide se précipita sur Mademoiselle Cunégonde et il l'aurait épousée sur le champ si on lui avait laissé. Ici, c'est épouser qui est employé, synonyme après tout, sinon d'aimer, en tout cas de mettre en pratique l'amour, de faire l'amour à quelqu'un. Faire l'amour à quelqu'un ou avec quelqu'un. Là encore, on a en français, dans beaucoup de langues, on a aussi ce problème, une ambiguïté. Faire l'amour à semble être unilatéral, égoïste, ou d'un don de quelqu'un à quelqu'un d'autre qui ne demande pas nécessairement. Faire l'amour avec indique une solidarité, une collaboration, si je peux me permettre ce terme, pas très poétique, pas très lyrique pour la relation d'amour. En tout cas, cette construction en français seulement, avec deux prépositions différentes, de faire l'amour avec A ou avec, est éloquente sur tout ce qu'elle nous révèle sur le type de relation à travers la langue. Il y a aussi aimer tout seul, dans la tragédie racinienne, j'aime et ne crois pas qu'au moment que je t'aime, etc. etc. Aimer, dit proférer à quelqu'un que l'on aime, sans mettre un complément d'objet, qui est cette personne elle-même, j'aime, c'est-à-dire je t'aime, qu'on n'ose pas expliciter de façon trop claire, c'est aussi un emploi qui, apparemment intransitif, qui n'est pas intransitif du tout, bien sûr. Bon, voilà un certain nombre de réflexions possibles. Il y a aussi l'amour à sens unique. La Rochefoucauld, qui évidemment, inévitablement ici, a dû déjà être, sera probablement aussi citée fréquemment, dit entre autres choses, on est souvent plus heureux par l'amour que l'on a que par celui que l'on donne. Alors évidemment, ça c'est intéressant parce que c'est une façon de récuser une conception de l'amour égoïste ou unilatérale, alors que l'amour, précisément, c'est un sentiment, peut-être le seul, qui, contrairement à la joie, la colère, l'exultation, l'angoisse, qui peuvent parfaitement être vécues solitairement, l'amour ne peut pas être vécu solitairement. Ou alors, s'il est vécu solitairement, le malheureux ou la malheureuse qui aime sans être aimé, évidemment, ne puisse pas dans l'amour un viatique de force, de bonheur ou de plaisir de la vie. Donc, l'amour suppose par définition un ou une partenaire, contrairement aux états, aux affects que je viens de citer, ou la peur aussi, ou l'anxiété. Bon, alors, cela étant dit, nous avons affaire donc ici à une série d'approximations, de réflexions sur l'amour en général, à travers notamment le français, mais je vais passer, rassurez-vous, je pense que certains l'attendent de moi, et je vais évidemment le faire, même si on ne l'attend pas, à un grand nombre d'autres langues. Je vais encore dire, au registre des généralités à travers le vecteur du français, que l'amour peut être un désir de présence, il l'est souvent, je souffre que la fille que j'aime soit absente, soit loin de moi, et par conséquent, la présence ou l'absence sont des ingrédients essentiels de l'amour. Ce n'est pas par hasard que l'on lit cette jolie phrase de Bussy-Rabutin. Ces deux vers se distiquent. L'amour, l'absence est à l'amour ce qu'est au feu le vent. Elle éteint le petit et attise le grand. Et quelques années plus tard, en des termes différents mais presque les mêmes, La Rochefoucauld disait « L'absence diminue les médiocres passions. Elle augmente les grandes comme le vent éteint la bougie et allume le feu. Bon, » ce n'est qu'une métaphore, mais elle n'est peut-être pas tellement fausse. Enfin, je voulais dire, toujours au titre des approximations d'ordre général, s'appliquant encore une fois à travers le français à beaucoup de langues du monde, sinon à toutes, que l'amour, en principe, est mieux vu quand il se passe d'adverbes. Aimer bien, aimer beaucoup, aimer fort, et même aimer de tout son cœur, en français du moins, c'est différent dans d'autres langues. On va voir tout à l'heure qu'en hébreu biblique et en hébreu israélien, les deux, aimer de tout son cœur est une expression de l'amour le plus fort. Alors qu'en français, je suppose que si je dis à une fille que j'aime, mais à qui je n'ose pas dire que je l'aime, je t'aime de tout mon cœur, si elle n'est pas idiote, elle va être furibarde, elle va penser que ce n'est pas de l'amour, elle préfère un amour exprimé par un verbe aimer tout court, et non pas bémolisé par un adverbe ou une expression adverbiale. Bien, alors cela étant dit, je passe aux langues, et pourquoi est-ce que je passe aux langues? Parce que précisément, la manière dont l'amour est parlé dans les langues, dont il est exprimé, est extrêmement indicatrice de son contenu. Il est bon, naturellement, moi je le fais parce que je suis depuis l'enfance un passionné de langues. Le plus grand amour de ma vie, c'est les langues. Si vous me permettez une petite, un rappel anecdotique, deux fois dans ma vie, il m'est arrivé de m'apercevoir que Si on emploie le verbe aimer, dans mon cas, aimer les langues, depuis ma toute petite enfance, j'ai toujours adoré les langues et je demandais à mes parents des dictionnaires et des grammaires des langues les plus diverses. J'étais fou. Puis un psychiatre leur a dit que j'étais pas fou du tout. J'étais un homme habité. Un homme habité, il peut être habité par le football, par la menuiserie, par l'art, par n'importe quoi. Un homme ou une femme habité, c'est quelqu'un qui a une monopassion pour une activité de l'esprit ou du corps. Ça peut être le sport, évidemment. Je suis assez sportif moi-même, mais sans être habité par le ski nautique, que j'ai pratiqué jusqu'à 2 semaines, par amour du ski nautique, ou par le ski de neige quand c'est l'hiver, j'adore ces sports. Par conséquent, tandis que les langues, je suis un homme habité, ce qui veut dire qu'elles sont vraiment le nec plus ultra de ma passion. Elles sont la focalisation en même temps que l'origine de ma passion. Donc, il est normal que je parle des langues. Et les deux épisodes que je voulais vous citer pour vous montrer que l'amour des langues chez moi va très loin. Quand on dit amour des langues, le mot amour s'adressant à quelqu'un d'autre, en principe à un autre être humain. Un jour, un journaliste m'a demandé, dites-moi, vous semblez aimer les jolies filles. J'ai dit, mais bien sûr, j'adore les jolies filles. Aimez-vous les langues plus que les filles? J'ai dit, en principe, non. Et pourtant, en deux circonstances, j'ai montré que c'était le cas. Un jour, c'était... Il y a 4 ans, une Suédoise que j'ai rencontrée à Stockholm, une fille merveilleusement belle, dont j'ai tombé fou, amoureux. Bon, on parle. Ensuite, je me retrouve chez elle. Et au moment où mes lèvres étaient à quelques centimètres des siennes, c'est-à-dire c'était vraiment un discours amoureux, une fille intelligente qui avait vu que j'adorais les langues, j'apprenais sa langue, j'interrogeais sur différentes manières de traduire en suédois ce qu'elle me disait. Elle me dit, mais dis-moi, au fait, toi, je vois bien que tu es un fou de langue. Est-ce que tu préfères les langues ou... moi, ou l'amour, ou moi, même si c'est momentané, est-ce que tu aimes plus les langues ou les femmes? Et je lui ai répondu, évidemment, avec un ton que je me suis efforcé de rendre gentil. J'ai peur que ce soit les langues. Elle m'a fichu dehors immédiatement. Elle a donc considéré que mon aveu absolument sincère d'amour des langues supérieur à tout amour, et notamment à l'amour qui, par nature, s'adresse à la personne de l'autre sexe, était encore plus grand que celui-là. Un autre, c'est un peu plus longtemps, il y a une dizaine d'années, une fille que j'avais rencontrée et qui me plaisait beaucoup, dont je pense être tombé amoureux. Il se trouve que quelques semaines plus tard, j'avais demandé un séjour au Caucase pour étudier les langues caucasiennes. Le CNRS tardait à me l'octroyer. Finalement, j'apprends, quelques jours après avoir rencontré cette fille, et on se plaisait beaucoup, que le CNRS m'envoyait au Caucase. Et j'ai eu un choix que je lui ai exposé. Elle m'a dit « Qu'est-ce que tu choisis ?» Je lui ai dit, ben, je suis absolument désolé, je partirai au Caucase. Elle m'a dit, tu sais que tu me perdras à ton retour. Je lui ai dit, oui, je le sais, je prends ce parti. Donc l'amour des langues, j'avais très fortement chevillé au corps ou au cœur. Bon, évidemment, l'état idéal, ce sont les langues transmises par une fille que l'on aime. Et je ne dis pas cela en m'inscrivant dans la vulgarité des gens qui disent que les langues s'apprennent sur l'oreiller. Ceci est une expression complètement vulgaire que je récuse, mais il est évident qu'une langue apprise dans une relation de tendresse et d'intimité n'en est que mieux apprise quand sa représentante, qui a un souci pédagogique, ne songe qu'à m'apprendre sa langue et, par conséquent, à me combler de bonheur. Sa langue, son moyen de communication. Je passe maintenant à une rapide étude de la manière dont c'est dit. Permettez-moi de passer maintenant à un des ingrédients possibles d'un discours sur l'amour, qui est la manière de dire « je t'aime ». Comment dit-on « je t'aime » ? Alors, dans certaines langues, on le dit par un verbe transitif dont le sujet est l'être aimant et l'objet l'être aimé. Par une étonnante harmonie entre la grammaire et l'amour, l'objet est en même temps l'objet au sens grammatical, c'est le complément d'objet. Le « te » de « je t'aime » est l'objet. Il en va de même dans « ich liebe dich », dans « ya tibia lublu » en russe. Alors, en espagnol, c'est plus intéressant. On dit « te quiero ». Et « te quiero » veut dire « je te veux ». Mais ce « vouloir », l'espagnol est la seule langue romane, contrairement au français, à l'italien, au roumain, au portugais, au catalan, au provençal, qui n'a pas pris la racine du verbe « volere » latin pour exprimer l'amour. Il a pris le verbe « désirer »,« chercher »,« vouloir », qui est « querer »,« te quiero ». Et ce qui est intéressant, c'est que ce mot qui veut dire « je te veux », contrairement aux Croates et aux Serbes, où on a « volimte », qui veut dire aussi « je te veux », mais qui veut seulement dire « je t'aime » et non pas « je te veux », en espagnol, c'est ambigu parce que « te quiero » veut dire « je t'aime », mais veut dire aussi « je te désire ». Alors, bon, les gens qui n'ont pas de préjugés, qui n'ont pas trop de pruderie, diront « mais c'est évident ». Comment peut-on aimer quelqu'un sans avoir envie de lui ou d'elle? Ça va de soi que aimer, c'est désirer. L'espagnol, lui, au moins, a le courage de le dire explicitement. Bien, si on va maintenant vers d'autres langues, il y a une autre façon de dire que l'on aime, c'est de mettre un peu plus loin, de distancier l'objet de l'amour. Ainsi, en indonésien, on dit « aku, je, cinta, em, padamu, j'aime vers toi ». En d'autres termes, on n'aime pas directement. On peut dire « aku, cinta, mu, je t'aime », mais on dit plus volontiers « j'aime vers toi, aku, cinta, padamu ». Et c'est intéressant parce que c'est une manière iconique de représenter dans la langue la distanciation entre ego et la personne aimée par ego qui existe dans le réel, en mettant un mot entre le complément d'objet, contrairement au cas précédent que je citais, et le verbe qui veut dire aimer. On peut également avoir des manières plus économes de ces élans furieux de l'amour dans cette même langue en employant un verbe sayang, akusayang, pas d'amour, qui veut dire je te chéris. Chérir est-il aimer ? Bon, je n'ai pas le temps naturellement, mais je pose le problème. Chérir et ses équivalents dans votre langue, veut-il dire aimer ? Quand on rend des parents, quand je dis moi-même à mes enfants qui sont encore petits, chéris, quand je les appelle chéris, c'est qu'ils viennent spontanément, naturellement, je chéris mes enfants, eh bien, je ne dis pas que je les aime. Par conséquent, si on dit « je te chéris » à quelqu'un qui attend « je t'aime », il ou elle peut très bien en être furieux. Enfin, en tout cas, considérer que ce n'est pas exactement ce qui est attendu. L'italien a quelque chose d'extrêmement étonnant. L'italien a deux verbes. Il a « amo », sous sa forme la plus forte, exemple dans l'opéra italien, « t'amo », déclaration d'amour, « je t'aime ». Mais l'italien a une autre manière de dire « je t'aime » qui est « ti voglio bene ». Et « ti voglio bene » veut dire évidemment « je te veux du bien », mais ça ne veut pas dire « je te veux du bien », ça veut dire « je t'aime ». Seulement, les langues ici sont intéressantes. Ce que je suis en train de faire en ce moment, au lieu de faire une dissertation générale en philosophe que je pourrais faire, qui m'intéresserait beaucoup, c'est tout simplement d'interroger les langues et de tirer de ce qu'elles disent une morale, une philosophie sur la nature de l'amour. Bon, si en italien, ti voglio bene est reçu par là ou le partenaire comme une déclaration d'amour, évidemment, c'est beaucoup moins fort que t'amo. Non pas que ça ne veut pas dire que je t'aime, mais parce que ça veut aussi dire je te veux du bien. C'est vrai que quand vous aimez quelqu'un, en principe, vous lui voulez du bien. D'autres pourront objecter pas du tout. Quand j'aime quelqu'un, je lui veux le plus grand mal possible, pour différentes raisons, dans le détail desquelles je n'entrerai pas, même quand on n'est pas au stade de la rupture ou du stade qui suit un amour depuis longtemps disparu. Une troisième caractéristique des langues, c'est qu'il y a des langues dans lesquelles on n'a plus un amour qui part en traversant une trajectoire vers l'être aimé, mais qui prend comme cible l'être aimant. Ce sont les langues dans lesquelles on ne dit pas « je t'aime », mais « tu es à moi objet d'amour ». Ces langues sont très nombreuses. C'est le cas du hindi, où on dit « mujhe, tumse, pyar hai », c'est-à-dire « à moi, à partir de toi ». Autrement dit, l'origine ici, c'est le partenaire et non pas celui ou celle qui aime. « Chez moi ou à moi, à partir de toi, il y a amour ». Donc c'est une façon très intéressante, étonnante, de parler l'amour. On fait la même chose en géorgien, la grande langue du Caucase. La langue de Staline, c'est la seule chose qui me permettrait de pardonner, non pas de pardonner, mais de comprendre toutes les horreurs de Staline. Il parlait comme langue maternelle, cette admirable langue qu'était le géorgien. Il avait aussi, paraît-il, comme première épouse, une ravissante géorgienne. Et la petite histoire dit qu'il a commencé à être atrocement tyrannique lorsqu'elle est morte. Quoi qu'il en soit, en géorgien, on dit la même chose, ou à peu près. Qu'en hindi, on dit « meshen mikvarkhar », c'est-à-dire « à moi, toi, tu es objet ou cible d'amour ». Si on interroge une autre langue qui a des particularités étonnantes, ce serait le finnois, la langue de la Finlande. Le finnois a une façon très surprenante de dire « je t'aime ». Il dit « rakastan sinua ».« Rakastan » veut dire « j'aime » et « sinua » est le cas de déclinaison, parce que c'est une langue à déclinaison, est le cas partitif de « tu ». Autrement dit, littéralement, ça veut dire « j'aime une partie de toi ». Bon, les gens qui adorent les précisions un petit peu gauloises vont dire « ah, 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 bien sûr, c'est surtout une partie qu'on aime ». Ce n'est pas du tout ça que ça veut dire. Ça veut dire que le verbe « aimer » n'est pas isolé parmi les verbes d'affect ou de sentiment. En finnois, on ne peut aimer qu'une partie de quelqu'un parce que l'amour, c'est la même construction pour répéter, pour mémoriser, pour penser, pour savoir. Comme ces différents processus intellectuels ou affectifs, l'amour est quelque chose qui n'atteint pas l'objet d'une façon aussi forte que la transitivité d'un frapper, d'un tuer ou d'un battre. Et c'est un fait que si on veut donner une glose qui dépasse la langue et qui part de cette caractéristique de la langue finnoise, on dira que quand vous aimez quelqu'un, le quelqu'un que vous aimez, la fille comme un garçon, ben, elle s'en fiche complètement. Si elle n'est pas amoureuse elle-même, il peut l'aimer autant qu'il voudra, ça n'aura strictement aucun effet sur elle. Sauf évidemment si le sentiment est partagé. Si elle ne l'est pas, en aimant une fille qui ne m'aime pas, je ne l'affecte en rien. Si elle est un peu gentille, généreuse, elle sera embarrassée de m'inspirer un amour qui me fait souffrir parce qu'il n'est pas réciproque. Si elle s'en fout complètement, pour elle, la déclaration d'amour n'a absolument aucun intérêt, aucun impact. Voilà donc une particularité intéressante du finnois. Et de fait, quand on aime quelqu'un, il n'y a pas en soi d'action, ce qui peut faire comprendre que le finnois le construise comme les verbes d'affect ou d'émotion, mais pas comme les verbes transitifs du type tuer ou battre que je citais, parce que il n'y a pas une action aussi forte que celle d'un prendre, bien que nombreuses soient les langues dans lesquelles le verbe prendre soit utilisé. Étonnant la dissymétrie en français, une fille qui parle un langage un petit peu désuet Aujourd'hui, ça n'est plus guère à la mode. Ça s'est dit, ça s'est écrit, ça se trouve dans des romans du 19e siècle ou du début du 20e, du siècle passé. Une fille peut dire « il m'a prise » ou « j'ai été prise ». Étonnante dissymétrie, un garçon à qui une fille fait l'amour, disons, dont elle a l'initiative, ne dira pas « je suis pris » ou « elle me prend ». Il est étonnant que c'est l'emploi unilatéral de prendre en français. Dans beaucoup d'autres langues, le chinois est dans ce cas, le coréen aussi, on a cette même caractéristique. Je continue très vite avec une autre manière d'exprimer l'amour, c'est là, par la fusion. C'est-à-dire les langues dans lesquelles l'amour s'exprime par une forme grammaticale qui n'est pas analysable, où le « je » et le « te » de « je t'aime », « je te désire » sont fondus en un seul et même pronom personnel que j'appelle une forme sagittale dans ma manière d'étudier les langues, c'est-à-dire qui est comme une flèche, la flèche d'Eros, la sagitta, traverse l'espace microscopique ou lointain qui sépare ego de la personne qu'ego aime. Les langues qui font ça sont nombreuses. C'est le cas notamment du hongrois, du magyar, une des plus belles langues du monde. On dit en hongrois « szeretlek ». « Szeretlek », c'est-à-dire « aimer ». « Lek » veut dire « je te ». « Aimer, je te ». En basque aussi, on dit comme ça. « Je t'aime », en basque, se dit « maite saitut ».« Maite » veut dire « amour ». Les filles qui s'appellent Maite, souvent, ça m'énerve. J'ai une étudiante qui s'appelle Maite, j'en avais deux l'an dernier. Bon, ces filles, elles ne savent même pas d'où vient leur nom. Elles ne savent pas que ça veut dire « amour ». C'est le mot qui veut dire « amour » en basque. Bon, alors, « maite saitut », ça veut dire « amour, je te », exactement comme en hongrois. Ou encore, on a ça en quechua, la grande langue indienne pré-colombienne, avant l'arrivée des Espagnols, les conquistadores, qui est parlé au Pérou, en Bolivie, en Équateur, en Colombie, dans les pays qu'on appelle andins, les pays des Andes, eh bien, on a la même chose, ou à peu près. « Je t'aime » se dit « munakuiku ».« Munakuiku », c'est-à-dire « aimer, je te ». Bon, j'appelle ça fusion, pourquoi ? Parce que le fait que l'on ait une même forme, sagittale, donc dans ma terminologie, indique dans la langue quelque chose qui est un des tropismes de l'amour, à savoir l'amour fusionnel, et c'est vrai qu'un grand amour, une grande passion pour celui qui s'aime et celle qui la partage, au moment où leur corps, où il y a ce merveilleux dialogue des corps qui les noue, qui les attache ensemble, au sens littéral, de nouer, d'attache, de pénétrer, en même temps, ont une tentation fusionnelle, s'ils s'aiment vraiment. Et par conséquent, il m'intéresse de voir que certaines langues expriment, mettent en mots la tentation fusionnelle qui est celle de l'amour. Je cite encore l'exemple du Guarani. Le Guarani est une très belle langue, c'est une langue que j'ai étudiée de près sur le terrain, comme le Quechua, comme d'autres langues. J'ai fait notamment des études de langue amérindienne. Bon, j'ai passé mon temps à traîner mes guêtres à travers le monde, à rechercher, à essayer de faire dégorger leurs secrets aux langues par amour. Parce que c'est moi qui suis un amoureux fou des langues, cette fois, ou de celles qui les parlent quand elles veulent bien. Bien, eh bien, le Guarani, c'est la langue officielle du Paraguay. Le Paraguay, bon, c'est un petit phénomène qui peut vous intéresser sur le plan politique, est le seul pays d'Amérique latine dans lequel une langue indienne soit langue officielle, inscrite dans la Constitution, au même titre que le castillan. Ni au Mexique pour le Nahuatl ou le Maya, ni au Pérou et autres pays andins pour le Quechua ou l'Aymara, une langue indienne ne dispute au castillan l'égalité constitutionnelle, tandis que le Guarani, au Paraguay, c'est son cas. Eh bien, en Guarani, pour dire « je t'aime », on dit « shero haihu », « shero haihu ». Et « ro » est une forme sagittale qui veut dire « je te », « haihu » veut dire « l'amour ». Et chez, c'est un des deux paradigmes de pronoms personnels. Il y a le paradigme des pronoms personnels qui indique l'action forte, et le paradigme des pronoms personnels qui indique ce que l'on subit, ce que l'on reçoit. Et le chez est celui que l'on emploie dans l'amour. Entre autres termes, il est intéressant de voir que je t'aime s'exprime par le pronom venant dire je du paradigme des pronoms d'affect et non pas des pronoms d'action. Mais ça, c'est pour je t'aime. Très étonnamment, pour dire il l'aime ou je l'aime, c'est-à-dire une relation dans laquelle il n'y a pas l'étroite relation de ego et de tu, eh bien, on emploie le pronom de la forme forte, de la forme active, qui est a, et on dit haihu, ishu pe, je l'aime. Et ishu veut dire lui, pe veut dire vers, autrement dit, quand ce n'est pas un je te, un je le, ou un tu le, ou un nous le, tout autre chose que le dialogue fondamental entre ego et tu, qui est exclusif de tout autre, eh bien, la forme même n'est pas la même pour dire « je l'aime », alors que c'est toujours l'amour différente de celle de « je t'aime ». Voilà comment, dans certaines langues, les personnes du dialogue, et seulement ces personnes du dialogue, peuvent être rivées l'une à l'autre par la profération même de leur amour, et la raison pour laquelle je persiste à penser qu'il faut interroger les langues. Alors, je cite encore l'hébreu, où on a « ani ohev »,« otra », ou « otra », j'aime vers toi. On a également l'arabe, « uhibbuk » ou « arshakou ».« Uhibbuk », je t'aime, « arshakouk », « arshakou ilayka », j'ai passion vers toi. Bon, ce sont des illustrations des choses que tout à l'heure je disais. Et on a également le japonais où aimer se dit aisuru, faire amour. C'est pas faire l'amour, c'est un emprunt au chinois ai. On dit wa aini en chinois je t'aime, et suru veut dire faire faire. Et il y va de même en coréen où aimer se dit ai hata, faire l'amour, c'est-à-dire pratiquer l'amour. Donc c'est une illustration de ces différents phénomènes. En matière de conclusion, et je pourrais rappeler ce que nous disait, encore une citation de quelqu'un qui en a beaucoup parlé, La Rochefoucauld, il y a des gens qui n'auraient jamais été amoureux s'ils n'avaient pas entendu parler d'amour. Bon, ce que je dirais comme commentaire de cette commentaire finale, pour clore ce petit exposé de la phrase de La Rochefoucauld, c'est que la mise en mots de l'amour, l'amour passant par le crible du langage, par la profération du sentiment, à certains égards, c'est l'amour lui-même. En d'autres termes, contrairement aux espèces animales qui, dans de la parade amoureuse, d'espèces très variées, donnent des signaux olfactifs, visuels, auditifs du désir amoureux, du très fort désir amoureux, qui est, tout dans une espèce humaine, capital, puisque c'est le secret même de la perpétuation de l'espèce. Sans ça, l'espèce s'éteint, tout comme la nôtre. Si les gens ne font plus l'amour, l'espèce humaine disparaît. Bon, eh bien, dans des espèces animales qui n'ont pas de langage, qui ont d'autres types de communication, langage sous forme des langues humaines, j'entends, eh bien, on a une gestuelle. Tandis que la communication par les langues, qui est caractéristique de façon exclusive, jusqu'au jour où certains animaux se mettront à parler de manière plus véridique que dans la fontaine, eh bien, elle est, en somme, créatrice de façon presque démiurgique. Elle crée l'amour à raison même du fait qu'on le parle. Merci.
Je vais maintenant passer la parole à Fabrice Adjadj. Pour vous présenter, je sais pas, j'avais envie de reprendre une formule que j'ai lue dans un excellent hebdomadaire qui est trop peu lu, qui s'appelle « Témoignage chrétien ». Et dans « Témoignage chrétien », Fabrice Adjadj, quelqu'un a écrit de vous « Comme beaucoup de catholiques ultra », il est aussi un véritable obsédé sexuel. Ce qui est un peu particulier, un peu bizarre, c'est une formule un peu ésotérique aussi. Mais effectivement, en tout cas, il se trouve que Fabrice Adjadj se définit lui-même toujours comme quelqu'un qui est arrivé au catholicisme par la conversion et qui est dans une forme de catholicisme très exigeante et très rigoureuse. C'est quelqu'un qui a construit un itinéraire, qui construit un itinéraire intellectuel très singulier entre philosophie, théologie, littérature. Il écrit à la fois des essais et des pièces de théâtre et des textes qui sont donc toujours signés au nom d'un certain point de vue chrétien, au nom d'une certaine foi, et en même temps toujours d'une plume à la fois très drôle et très fervente. Je parlais tout à l'heure à propos de Claude Agege, d'ode amoureuse à la langue. On pourrait dire un peu la même chose des textes de Fabrice Adjadj, qui sont eux aussi une sorte de chant amoureux. Il a publié notamment un essai qui s'intitule « La profondeur des sexes pour une mystique de la chair ». C'est paru au Seuil en 2008. Un essai que certains ont qualifié d'un peu provocateur, et où Fabrice Adjadj fustige aussi bien. Et là, on rejoint par des voies très différentes quelqu'un qui se réclame du maoïsme comme Alain Badiou et qui lui-même s'en prenait aussi bien au moralisme pudibond qu'à la pornographie ou au sexe débridé. Eh bien, chez un chrétien très rigoureux comme Fabrice Adjadj, il y a des choses qu'on retrouve chez le maoïste Alain Badiou pour construire une sorte de philosophie de l'amour comme risque, comme aventure, comme puissance charnelle et comme force spirituelle. Le livre donc, qui s'appelle « La profondeur des sexes » en arrive page après page à proclamer la dimension charnelle de la mystique et à proposer même, je le cite, une définition de la théologie, de la théologie donc, comme pornographie divine. Fabrice Adjadj, voilà, je ne sais pas du tout de quoi vous allez parler, mais je vous cède la parole telle que vous êtes à l'instant.
Alors, que disons-nous quand nous disons « je t'aime » ? Eh bien, avant d'être une question que se pose le philosophe, c'est une question que lui pose sa femme. Le philosophe est dans ses livres, dans la préparation du forum « Le Monde, Le Mans ». Il travaille à sa conférence et même à son éloge de l'amour, mais voici que sa femme fait irruption dans son bureau et lui demande « est-ce que tu m'aimes ?» Admettons qu'il daigne lever la tête au-dessus de ses pages ou de son écran et qu'il réponde « Bien sûr que je t'aime. » Lui qui fait profession de questionner, de manifester l'inévident jusque dans l'évidence même, il prétend soudain qu'il s'agit là d'une évidence sans problème. Sa femme peut dès lors soupçonner à bon droit que cette déclaration d'amour est une manière de la congédier gentiment. Commence alors un dialogue à front renversé, dont je vais vous donner quelques extraits, en tout cas à front renversé, parce que c'est la femme du philosophe qui questionne et le philosophe qui cherche à se réfugier derrière ces mots. La femme. Et pourquoi tu m'aimes ? Pourquoi l'amour est sans pourquoi ? C'est ce qu'on pourrait dire en paraphrasant Heidegger, qui lui-même reprenait un vers d'Angelus Silesius. Mais je ne m'adresse pas à Heidegger, ni à Silesius, je m'adresse à toi. Pour moi aussi, c'est sans pourquoi que je t'aime. Je t'aime, voilà tout, et j'ai du travail. Si tu m'aimes sans pourquoi, tu aurais pu aussi bien aimer quelqu'un d'autre. Non. Alain Badiou parle justement du hasard d'une rencontre qui se change en aventure obstinée. Mais je ne suis pas avec Badiou ici. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire, le hasard d'une rencontre ? Tu aurais raté le train ce jour-là que tu serais avec Gertrude. J'ai pris Gertrude parce que c'est la Sainte Gertrude aujourd'hui. Oui, mais je n'ai pas raté le train. C'est le destin alors ? Oui, enfin, l'amour est une aventure obstinée qui change le hasard en destin. Une aventure obstinée ? Alors je ne t'attire plus physiquement ? Si, si, tu m'attires physiquement. Je t'attire physiquement ? Alors j'assure pour toi une fonction physiologique ? Je te soulage entre un colloque et une lecture. Mais non, mon amour... Je t'aime aussi pour tes qualités morales. Pour mes qualités morales. Je vois bien que je t'insupporte à cet instant même. Mais je t'aime pour toi-même. Pas seulement pour mon agrément, mais d'abord pour toi, pour ton bien. D'ailleurs, quand il distingue la simple convoitise de l'amour véritable, Aristote dit qu'aimer, c'est vouloir le bien d'autrui. Ah, tu veux mon bien ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je croyais avoir un mari et voilà que je découvre que je vis avec un philanthrope. Mais non, je t'aime toi, à part de tous les autres, à part de tous les autres, comme une déesse alors. En quelque sorte, comme ma déesse. Mais je ne suis pas une déesse. Je dors mal, j'ai des problèmes de digestion, les enfants ne m'obéissent pas tant que je n'ai pas hurlé dessus, et puis je vieillis. Je t'aime pour ce que tu es. Et quand je serai laide et sénile, ce sera toujours moi et tu m'aimeras encore ? Eh bien, et quand viendra te frôler une plus jeune, plus belle, plus intelligente ? Eh bien, et puis, est-ce que tu empêcheras ma mort, dis ? Alors là, Gabriel Marcel a dit, ah non, pas Gabriel Marcel. Il a pourtant dit, aimer quelqu'un, c'est lui dire « toi, tu ne mourras pas ». Et Vladimir Soloviev insiste sur le fait que l'amour est une protestation contre la mort. Et comment vas-tu faire pour que nous ne soyons pas morts demain ? C'est-à-dire que... Et comment vas-tu faire pour que je ne sois pas acariâtre et de mauvaise humeur aujourd'hui ? C'est-à-dire que... Et comment vas-tu faire pour ne pas m'étrangler dans quelques instants ? Écoute, je vais faire des efforts. Mais je ne veux pas que tu fasses des efforts. Je suis ta femme, pas un pinsomme. Je voudrais que tu te passionnes. Soit tu es ma passion dans tous les sens du terme. Une passion aveugle, alors, ou un devoir laborieux. Est-ce que je peux retourner à mon travail ? Ma conférence sur l'amour est pour après-demain. Je te signale que cela fait 2 jours que j'attends que tu débouches l'évier de la cuisine. Alors, cette conversation amoureuse est importante. Elle est la raison pour laquelle j'ai changé de sujet. Je pensais vous parler de l'amour comme commandement, sur un mode très dissertatif, mais ma femme est entrée dans mon bureau. Et d'ailleurs, à sa suite, mes enfants, l'un en me présentant un dessin, l'autre en accusant sa grande sœur d'être méchante, et un troisième en voulant me sauter sur les genoux. Et voilà, j'ai été dérouté dans mon projet, décentré dans mon rôle, tiré hors de ma fonction. Si vous aimez une chose, par exemple un saucisson ou un roman, le roman ou le saucisson ne viendront jamais vous interroger sur l'amour que vous leur portez. Vous pouvez les dévorer sans mal, il n'y a là rien à redire. Il en va tout autrement avec une personne, surtout si cette personne est votre femme ou votre enfant. Elle peut toujours vous demander de rendre raison de votre amour. Elle peut même le demander, cette personne, sans parole, comme un nourrisson par exemple, par sa simple présence. Et quoique le philosophe aime à rendre raison de ce qui est, dans ce cas-là, il se sent mal à l'aise. Je ne parle pas ici de l'intellectuel ou du spirituel qui aperçoit une splendide passante et d'un coup perd la tête juste après avoir donné une leçon sur le détachement stoïcien. C'est là un cas d'école. Le type tombe de son piédestal parce qu'il tombe amoureux. Vous songez par exemple à Partage de midi de Paul Claudel. Ici, je parle du philosophe en tant qu'homme marié que sa femme interroge sur son amour ou que son petit enfant requiert. Pourquoi est-il si embarrassé, le philosophe ? J'y vois au moins trois motifs. Le premier, c'est qu'il est dessaisi de son autorité sur la question. Le philosophe aime à questionner, mais le plus souvent, il veut être celui qui mène le jeu. Il questionne, il doute même jusqu'à l'hyperbole, mais il apprécie beaucoup moins d'être questionné concrètement par autrui et moins encore d'être questionné sur ce qui l'engage au quotidien et qui lui interdirait de conserver sa hauteur de juge. Et ça, c'est déjà aussi le deuxième motif. Le philosophe s'intéresse aux principes. Il parle de l'amour en général. Et voici que sa femme le questionne sur son amour en particulier. Il lui faut alors passer de la doctrine à la vie, des idées au visage. Et ce passage est extrêmement difficile, surtout s'il est un spécialiste du concept de visage ou qu'il possède une grande théorie sur l'amour. Enfin, troisième motif, la réponse qu'attend sa femme n'est pas spéculative. Quand elle demande « Est-ce que tu m'aimes ?», à moins qu'elle ne soit philosophe elle aussi, elle ne veut pas une affirmation ni une explication. Elle exige une attention. La vérité qu'elle attend n'est pas dans une proposition logique, elle est dans une présence personnelle. Écoutons d'ailleurs l'amoureux. Il répète « je t'aime » comme s'il ne l'avait jamais dit encore. Comme si sa redite relevait de l'inédit. Il ne donne pas une information, sinon il ne répéterait pas. Il trahit une surprise. La vérité de l'amour n'est pas dans une adéquation des concepts aux choses, mais dans une inadéquation reconnue. L'amoureux fait l'expérience d'un surcroît, d'un excès dans le réel. Et cette expérience, elle s'éprouve à la fois comme un déjà-là et un pas encore. Il est déjà bouleversé par ce qui l'éblouit, c'est plus qu'il n'aurait pu concevoir, et en même temps, il perçoit qu'il n'a pas encore répondu adéquatement. Que la parole qui déclare cet événement est toujours à venir, en sorte que l'événement dure et qu'il n'est jamais pleinement advenu. C'est pourquoi, c'est un peu ma thèse, il y a moins une pensée de l'amour que des histoires d'amour. L'amour ne se résout pas dans la pensée, mais se déploie dans une histoire. C'est pour ça que j'ai parlé de l'irruption de la femme, d'ailleurs. Son ouverture à l'autre est une ouverture féconde qui ouvre un avenir. L'histoire d'amour n'est pas un épisode, une anecdote dans la grande histoire mondiale. Elle est ce qui ouvre l'histoire, ce qui fait qu'une aventure a lieu, ce qui relance la vie, alors même que la mort triompherait partout. Du reste, vous le savez bien, s'il n'y avait pas d'abord l'amour d'un homme et d'une femme, cet amour qui les transforme au point de les rendre père et mère, et qui les tourne vers cet autre, vers ce tiers qui est l'enfant, l'histoire s'arrêterait, faute de protagoniste. Alors, en étant dérangé dans son travail, le philosophe n'est pas détourné de la philosophie. Si la sagesse consiste à dire le réel, c'est quand le philosophe consent à ce que la réalité le dérange et trouble son système, qu'il devient vraiment ami de la sagesse, et donc philosophe. Ce que je veux dire, c'est que sa femme, ses enfants, plus que ses collègues, sont les garants de son réalisme. Eux seuls peuvent l'arracher à l'idéologie. Il se peut même que la chaire d'université soit moins décisive pour le philosophe que la scène de ménage. Parce que la scène de ménage le ramène à la chaire du quotidien. Eh bien, cela, Platon ne l'ignorait pas. Même si, dans un ordre plus spirituel que charnel, il parle de l'irruption de la femme, il en parle. Il parle de l'irruption de la femme et de l'enfant dans le banquet. Vous savez que le banquet, c'est un colloque entre des hommes, des beaux parleurs professionnels qui, tour à tour, vont faire chacun leur éloge de l'amour. Mais quand vient le tour de Socrate, Socrate, lui, avoue son impuissance. Et il introduit subitement une femme dans l'assemblée virile. Il raconte ce qu'il a appris jadis, lorsqu'il était jeune, ce qu'il a appris auprès d'une prêtresse de Mantinée qui s'appelle Diotime. Et puis après avoir introduit la femme comme maîtresse au sens le plus élevé du terme, il va introduire l'enfant. Ou plutôt, ce n'est pas Socrate qui va introduire l'enfant, c'est Platon qui fait entrer l'enfant, le fils prodigue, à savoir Alcibiade. Alcibiade qui est un des tout premiers disciples de Socrate. L'articulation de l'un et de l'autre moment, la femme, l'enfant, trouve son essence, sa consistance dans la conclusion que va faire Diotime elle-même, qui va associer amour et avenir. Le jeune Socrate croit que le but de l'amour, c'est l'union. Il suffirait de s'unir à l'autre, au beau, pour être comblé. Et voilà que Diotime le détrompe. L'amour ne s'achève pas dans le couple. Telle serait la plus grande erreur, croire que l'amour n'est qu'une affaire à deux, toi et moi sur une île déserte. Si tel était le cas, il faudrait soit verser dans une fusion qui finit par détruire toute altérité, soit reconnaître une séparation qui finit par être insupportable ou par nous tourner vers un autre qui n'est pas moins séparé. L'amour ne comble pas, il creuse et il déborde en une générosité. Il ne suffit donc pas de s'élever vers le ciel pour s'unir à la beauté, chez Platon, il faut encore redescendre dans la caverne pour enfanter, pour, comme dit Diotime, engendrer dans la beauté. Vous voyez, dans l'amour, il ne s'agit pas seulement de parvenir à une doctrine où tout se résoudrait à travers des concepts intemporels, sub specie eternitatis, comme on dit. Il s'agit d'ouvrir un avenir par une fécondité. Et vous voyez que chez Platon, le modèle est sexuel, mais ce modèle sexuel est transposé dans la philosophie. Le philosophe cherche à s'unir à la source de toute chose pour engendrer d'autres à cette recherche. Et d'ailleurs, les engendrer, paradoxalement, c'est une maïeutique, c'est les faire accoucher, si bien que la fécondité se répercute de proche en proche. Dans le banquet, Alcibiade est un exemple de la fécondité de Socrate, mais c'est un fils prodigue, un fils dévoyé. Le vrai fils de Socrate dans Le Banquet, le fils devenu fécond, c'est l'auteur du Banquet, c'est Platon qui lui-même me donne de réfléchir avec vous, avec lui, et nous ouvre ensemble un avenir. Donc vous voyez que paradoxalement, le sommet de l'amour n'est pas de s'unir au plus aimable, mais à partir du plus aimable, le beau de, qui est la source de toute chose, de redescendre et d'aller vers celui qui n'est pas aimable encore. Ce n'est pas de s'unir à la beauté invincible, mais à partir de cette beauté, de descendre vers le plus petit, le plus vulnérable, celui qui n'a pas de qualité ni de titre à faire valoir, celui qui nous donne une joie sans jouissance, c'est-à-dire l'enfant, qu'il s'agisse d'un enfant naturel ou d'un enfant spirituel. Cet enfant dont Descartes disait que l'on est prêt à mourir pour lui alors qu'il n'est rien de grand encore. Mais même s'il n'est rien de grand, il est l'avenir. Vous voyez, on parle souvent de l'amour à partir du couple, dans cette sorte de fascination, du face-à-face, avec un désir fusionnel, et on oublie qu'il y a cette dimension-là de l'amour des parents. L'amour qui engendre délivre le couple de l'hypnose, de la fascination mutuelle, pour le tourner vers la vie simple, vers la simple joie de vivre. Alors j'ai dit que chez Platon, il y avait une sorte de modèle sexuel de tout amour. Bien sûr, hein, Platon ne dit pas qu'il faut simplement en rester là, mais que c'est là, vous voyez, le modèle. C'est de là, de toute façon, que nous venons. Est-ce que ce modèle sexuel ne serait pas finalement un mensonge sexuel ? Vous voyez, on pourrait penser, on pourrait avoir un soupçon que le « je t'aime » est une ruse de la pulsion. Il dissimulerait une pulsion, vous voyez, pour, en vue d'une jouissance physique. Ce que l'on chercherait derrière le « je t'aime », c'est avant tout, comme dirait Marc Corel, une friction des muqueuses accompagnée de spasmes et d'émissions de morve. Alors, le « je t'aime », l'amour, serait là pour dissimuler le simple désir sexuel, pour ne pas avoir à dire « j'aime ton cul » ou « j'aime le va-et-vient de mon sexe dans le fourreau de ton corps ». Il y a un peu de poésie là. Pardon. Si vraiment nous visions cette dissimulation, ce serait vraiment prodigieux. Parce qu'une question se poserait aussitôt, pourquoi cette dissimulation est-elle nécessaire ? Pourquoi la sexualité a-t-elle ce besoin ? Après tout, les bêtes, vous voyez, ça se passe très bien, ils n'ont pas besoin de dire « je t'aime ». Vous voyez, je reviens à cette idée, vous savez, ces philosophes du soupçon, notamment par exemple La Rochefoucauld, dont on a parlé. Vous savez, La Rochefoucauld dit « les vertus, le plus souvent, ne sont que des vices déguisés ». Mais la question, c'est pourquoi les vices ont-ils besoin de se déguiser ? Est-ce que finalement, ils ne rendent pas hommage à la vertu en ayant besoin de se déguiser ? Finalement, n'y a-t-il pas une illusion de l'illusion ? En croyant que le « je t'aime » n'est qu'une illusion, est-ce qu'on ne se fait pas des illusions ? En essayant de le ramener à une simple pulsion, est-ce que cette réduction à une pulsion possessive ne serait pas une fuite devant une exigence irrépressible ? Quelle est cette exigence ? Eh bien, si l'on regarde la sexualité elle-même, dans sa forme la plus physique, dans son donné le plus naturel, la sexualité humaine nous engage toujours par-delà la pulsion. Pour deux raisons. D'abord, dans son principe, dans sa cause. L'attirance s'est faite non pas à partir de phéromones ou d'un instinct. Vous savez que l'homme n'a pas à proprement parler d'instinct sexuel qui viendrait intégralement régler sa sexualité. L'attirance se fait par une beauté, par un charme. On pourrait dire que c'est une beauté qui délivre une forme, une harmonie, quelque chose qui est spirituel, mais qui se donne à même la chair. Et vous voyez, dans toute rencontre, on a été touché aussi par un charme, quelque chose qui est dans la chair, mais qui ne se réduit pas à la chair. Et si l'on pense maintenant non pas à la cause de l'amour, mais aux conséquences. Autrement dit, si l'on s'étreint à fond, si l'on baise à fond, sans préservation, sans réticence chimique ou technique, qu'est-ce qui se passe ? Il y a la possibilité d'avoir un enfant. Et cette possibilité, qui est naturellement sexuelle, exige un questionnement spirituel. Le questionnement le plus élevé s'ouvre en dessous de nos ceintures. À même le sexe s'ouvre un problème métaphysique. Pourquoi donner la vie ? Pourquoi ouvrir un avenir ? Pourquoi continuer cette histoire si c'est pour le triomphe de la poussière ? Vous voyez, le sexe lui-même exige une ouverture de l'avenir. Et le sexe lui-même, s'il se déploie dans son donné le plus naturel, cherche toujours à inventer l'autre. Alors, pour conclure, je voulais vous parler c'est très intéressant parce qu'on pourrait parler ici de la circoncision, une chose très intéressante. Pourquoi est-ce que la marque de l'alliance chez les Juifs est dans le sexe de l'homme ? C'est une bonne question, ça. Pourquoi dans le sexe ? Précisément parce que le sexe, vous voyez, à un moment, quand il est dressé, on pourrait avoir une réticence, on pourrait se dire, mais pourquoi continuer ? Pourquoi donner la vie ? Et il y a, vous voyez, cette alliance qui dit, vous voyez, Dieu lui dit, vas-y, tu peux y aller. Fonce. Je tiendrai mes promesses. Tu peux faire confiance en la vie. Ce que j'ai essayé de vous dire ici, c'est que la réponse à la question « Pourquoi tu m'aimes ?» n'est pas dans une explication, mais dans une promesse de vie commune dans la différence radicale, mais aussi de fécondité commune, qu'elle soit naturelle ou spirituelle. Une fécondité qui ouvre un avenir. L'amour met toujours au monde, l'amour donne le jour, l'amour invente un commencement, même si c'est parmi les ruines. Et c'est pour cela qu'on pourrait dire que tout amour est messianique. Il ouvre toujours un avenir comme espérance. Voilà, merci.
Merci Fabrice Hadjadj. Vous avez bien annoncé l'intervention de Valérie Gérard. Vous avez dit qu'il n'y avait pas à proprement parler, une pensée de l'amour, mais plutôt une histoire ou des histoires d'amour. Où ont lieu les histoires d'amour ? C'est le titre de l'intervention de Valérie Gérard, je voudrais vous la présenter avant de lui laisser la parole, en disant qu'elle est tout à fait représentative de des philosophes qu'on essaie d'inviter au fil des années. Depuis le début de cette édition, vous avez déjà entendu plusieurs jeunes philosophes. On essaye de brasser les générations au fil des forums philo du monde. Le Monde Le Mans, vous avez entendu Élie Düring, Patrice Maniglier, Julia Pecker, Elsa Dorlin, enfin toute une jeune génération de philosophes qui est en train de s'imposer sur la scène intellectuelle. Et Valérie Gérard est l'une de leurs camarades. Elle a travaillé notamment sur l'œuvre de la philosophe Simone Weil, sur celle d'Anna Arendt également. Et elle a publié deux livres, l'un qui s'intitule Simone Weil, lecture politique, aux éditions Rue d'Ulm, qui est paru en 2011, et puis un autre qui s'intitule L'expérience morale hors de soi, qui est paru aux Presses universitaires de France également en 2011. Et dans ce livre, elle mobilise à la fois les philosophes, mais aussi les psychanalystes, les écrivains et d'autres, pour envisager la morale avec, elle me corrigera peut-être, mais une double prise de parti. D'abord, Valérie Gérard considère la morale non pas comme un ensemble de critères comme ça essentiels qui permettraient de distinguer le bien et le mal, mais comme quelque chose qui fait d'abord l'objet d'une pratique, d'un exercice, d'une expérimentation, bref, d'une expérience et d'une expérience, dit-elle, proprement politique. Ensuite, deuxième parti pris, ou prise de parti, Valérie Gérard remet en question le vieil idéal de maîtrise de soi et d'autarcie morale, c'était le sujet de sa thèse. Elle considère le rapport à soi comme quelque chose de toujours problématique et elle privilégie le rapport à ce qui nous est extérieur. Son travail relève donc de ce qu'elle appelle une philosophie sociale qui penserait à nouveau frais les liens entre morale d'un côté et politique de l'autre, pour explorer ces expériences que constitue la rencontre avec autrui, on y revient, et puis aussi l'expérience de la dépossession de soi, de la perte de soi dans le rapport à autrui et dans le rapport également au monde. Valérie Gérard, merci d'être présente. Merci.
Merci à vous de votre invitation. Donc, je vais vous parler effectivement des lieux des histoires d'amour. Alors que l'amour est souvent décrit comme hors du monde, je propose de souligner en quoi l'histoire d'amour est inscrite dans un monde. Mon hypothèse est qu'on ne désire jamais quelqu'un, on désire vivre une histoire avec quelqu'un, et cette histoire est ancrée dans un contexte, elle est située. Cela fait la fragilité d'une relation conditionnée par un milieu, liée à des circonstances qui risquent toujours de changer, mais cela fait aussi sa force, puisqu'elle a la consistance d'une histoire qui a ses événements, ses lieux et son sens. Où donc ont lieu les histoires d'amour? D'abord, peut-être, dans les romans, dans les mythes, dans les chansons, au cinéma. Si bien que l'amour semble inséparable des discours et de la fiction. D'un côté, l'amour est ce qu'on raconte. De l'autre côté, ces récits ont une influence sur la manière dont les gens vivent et se racontent leurs propres histoires. Ce lien entre l'amour et les discours peut être célébré, par exemple dans l'un des grands textes philosophiques sur l'amour, le Phèdre de Platon, mais il peut également servir d'argument pour démystifier l'amour, en montrer la facticité, n'y voir que mensonge et fiction. Ainsi, cette phrase que vous avez déjà beaucoup entendue aujourd'hui de La Rochefoucauld, « Il y a des gens qui n'auraient jamais été amoureux s'ils n'avaient jamais entendu parler de l'amour », l'amour serait d'un côté une mystification, on n'est jamais amoureux de quelqu'un, on est prisonnier d'une fiction sur l'amour, d'un ensemble de discours qui louent l'amour. L'amour serait de l'autre côté totalement arbitraire, et l'écrivain Roland Barthes en raconte ainsi l'histoire à partir de Goethe, l'écrivain allemand. Peu avant de tomber amoureux, Werther rencontre un jeune valet qui lui raconte sa passion pour une veuve. L'image de cette fidélité, de cette tendresse me poursuit partout, et comme brûlé moi-même de ce feu, je languis, je me consume. Après quoi, dit-il, il ne reste plus qu'à Werther qu'à tomber amoureux, à son tour, de Charlotte, et Charlotte elle-même lui sera désignée avant qu'il la voie, dans la voiture qui les emmène au bal, une amie obligeante lui dit combien elle est belle. Et, comme dit Barthes, ce corps qui va être aimé n'est-il pas l'objet scintillant qu'une main habile fait miroiter devant moi et qui va m'hypnotiser, me capturer? Donc, sous deux rapports, l'amour ne semble ni libre, ni orienté vers un être aimé pour lui-même. D'une part, Charlotte est l'objet nécessaire pour satisfaire un désir qui la précède, qui est le désir de vivre une grande passion, et d'autre part, elle est désignée par d'autres comme objet d'amour, à tel point qu'on peut trouver qu'un tel amour a quelque chose d'aliéné à l'opinion des autres, à l'extériorité. Et Barthes en tire la conclusion que l'amour se suscite par induction, à partir des autres, du langage, des amis, et donc qu'aucun amour n'est originel. Cela fait-il pour autant de l'amour une illusion? On pourrait soutenir au contraire que vouloir vivre, se raconter et raconter une histoire est au cœur de l'histoire d'amour, et que cela en fait la consistance. Par là, le désir amoureux, loin d'être acosmique, c'est-à-dire sans monde, hors du monde, est situé dans son contexte, dans son lieu, dans un monde de relations et d'histoires. Autrement dit, faire de sa vie une histoire, la mettre en histoire, c'est inscrire cette vie dans le monde qui accueille l'histoire et dans le monde qu'elle contribue à créer. Je vais prendre un long exemple chez Marivaux, sur ces histoires d'amour suscitées par des histoires entendues et qui tombent sur des amants désignés à l'avance. Dans les fausses confidences de Marivaux, donc une pièce du XVIIIe siècle, Araminte est une belle et riche veuve à qui sa famille bourgeoise tente d'arranger un mariage d'affaires avec un aristocrate. Un sublime jeune homme ruiné, Dorante, est amoureux d'elle et il s'engage à son service comme intendant et met sur pied avec l'aide d'un valet une machination visant à la conquérir. Le valet, Dubois, sous prétexte d'enjoindre Araminte à renvoyer Dorante, lui apprend l'amour que son intendant éprouve pour elle et il le fait en lui racontant, comme l'ont souligné les critiques, un roman dont elle serait l'héroïne. Je le cite, « Ce fut un jour que vous sortîtes de l'opéra qu'il perdit la raison. C'était un vendredi. Il vous vit descendre l'escalier et vous suivit jusqu'à votre carrosse. Il avait demandé votre nom et je le trouvais comme extasié. Il ne remuait plus. » Araminte répond, « Quelle aventure !» Dubois semble avoir touché juste avec sa mise en scène. la jeune veuve sans histoire est sensible au romanesque. Et si elle accepte progressivement de s'émanciper de son carcan bourgeois pour épouser un homme qui lui est socialement inférieur, c'est parce que cet homme lui a été présenté comme incarnant l'amour courtois, amour fou et désintéressé, prêt aux sacrifices les plus grands, d'un homme qui se consume pour apercevoir sans espoir l'objet de son amour. Tous les clichés du genre sont réunis. Il y a de quoi la faire rêver, elle qui vit dans un monde où il n'est question que de titres et d'argent. Suivre la voie de l'amour, ce sera abandonner les intérêts matériels pour les risques de l'aventure, échapper à un monde mesquin pour embrasser une vie orientée vers d'autres valeurs. On a dit qu'Araminte est séduite par cette histoire d'amour car cette histoire satisfait son narcissisme. Elle dira en effet à l'acte 3 « Est-ce qu'on ne peut me voir sans m'aimer ?» Et dans la mesure où cette histoire est très romancée pour les dessins d'une machination implacable, on a pu dire qu'Araminte est en fait amoureuse d'une fiction. Cela suffit-il à dire que l'amour est une mystification et qu'il ne repose sur rien ? Ce n'est pas du tout la voie que propose Marivaux, puisqu'à la fin de la pièce, Araminte est mise au courant du piège qui lui a été tendu et ça ne change rien à son amour. Elle dit à Dorante, « Après tout, puisque vous m'aimez véritablement, ce que vous avez fait pour gagner mon cœur n'est point blâmable, il est permis à un amant de chercher les moyens de plaire. » Araminte reconnaît ainsi la légitimité de la mise en scène qui a conduit à l'amour et ainsi le fait que tout amour est pris dans une histoire, en partie fabriquée. Mais si l'amour a pris, c'est que l'histoire plaisait, que l'autre est susceptible de proposer des histoires désirables. Autrement dit, Araminte accepte lucidement le lien entre amour et illusion, spontanéité du désir et stratagème, construction de l'histoire. Et pour l'un des critiques de cette pièce, les fausses confidences mettent en lumière à quel point l'amour est en rapport avec un besoin de fiction. Alors peu importe la part de mystification, peu importe la question de savoir si Araminte est amoureuse de Dorante ou prise dans les charmes d'une fiction, l'amour, toujours, raconte et se raconte des histoires. Il se loue, il se chante, il est pris dans des discours et constitué par ces discours plus ou moins délirants. Mais si l'amour, par nature, délire, si l'amour est un besoin de fiction, n'est-il pas alors une tentative d'échapper au monde, à une réalité quotidienne prosaïque ? La passion amoureuse aurait alors toujours, comme dans la mythologie romantique, quelque chose donc d'acosmique, de hors du monde. Et là encore, ce n'est pas la voie que propose Marivaux dans cette pièce. La part de fiction dans l'histoire amoureuse est inséparable de son ancrage dans une réalité, réalité socio-historique. Si tel ou tel fantasme littéraire attire Araminte, elle est également séduite par l'idée de vivre une histoire qui prend, par rapport à la société de son époque, une signification qu'elle valorise. L'amour est indissociable d'un rejet des valeurs de son milieu et de la promotion d'autres valeurs. Son histoire s'inscrit parfaitement dans le monde du XVIIIe siècle et la raconter, de ce point de vue, peut être encore pour elle source de satisfaction narcissique. En effet, son aventure n'a rien de hors-sol. D'abord, dans le regard de Dorante que lui présente Dubois, Araminte est ancrée dans le monde parisien, dans sa géographie, dans ses objets. Elle sortait de l'opéra, elle a été dans son carrosse, elle allait à la Comédie, elle allait aux Tuileries. On a pu y voir que le signe que l'attachement de Dorante est un attachement à la richesse d'Araminte, au moins autant qu'à sa personne, à quel point il est indispensable de la viser d'une position sociale. On rappelle le valet disant à l'amoureux, à Dorante, « Je vous vois déjà en déshabillé dans l'appartement de madame, vos équipages sont sous la remise. » Mais quel sens y a-t-il à vouloir distinguer Araminte de son monde ? Dorante désire un tout, et il n'est pas sûr qu'il puisse jamais en être autrement. Et Araminte elle-même, dans cette histoire, désire être l'héroïne du roman écrit par Dubois, mais aussi la femme moderne, émancipée, capable de dépasser les conservatismes pour promouvoir le mérite plutôt que les titres, prenant sa place dans un mouvement de démocratisation qui émerge à son époque. L'histoire d'amour, loin d'être hors du monde, participe à l'institution d'un monde nouveau. Elle va avec la valorisation d'un nouveau système social. Tout ce contexte forme l'histoire et nourrit l'amour. On peut choisir de penser que, loin de n'en faire qu'un prétexte, il lui donne sa consistance et son sens, une consistance que ne suffirait pas à lui donner un sentiment ou un désir sexuel. Le choix d'un amour, le choix d'une histoire, le choix d'une vie et de valeurs, le choix d'un monde sont ici inséparables. Et, de manière générale, on peut supposer que désirer quelqu'un, c'est toujours désirer le monde que peut offrir quelqu'un, dans lequel telle histoire, tel genre de vie sont possibles, telle valeur en cours. Il y va du choix implicite d'une vie et d'un monde. Il y a toute une tradition à laquelle il faut s'opposer pour poursuivre dans cette voie. Donc la tradition pour laquelle l'amour serait sans lieu. Platon dit atopos, en grec c'est sans lieu, étrange et fou. Donc on peut penser aux descriptions de l'amoureux que fait Platon, qui, dans son enthousiasme pour la beauté et tout ce à quoi elle le fait aspirer, oublie les choses qui sont à ses pieds. L'amour serait acosmique. On peut penser au texte de Hannah Arendt, dans lesquels elle soutient que l'amour détruit le monde, ou est détruit par le monde, en tout cas incompatible avec l'existence d'un monde. D'où le lieu commun des amants maudits, qui, aux marges de la société, vont à leur perte. De manière générale, pour Arendt, les amants seraient dans une telle fusion qu'ils oublieraient tout ce qui les entoure. Ils oublieraient qu'il y a un monde. Je vous la cite, « L'amour ne peut être éternel qu'en l'absence de monde. Dès que cette puissance s'empare de l'homme, il y a une humanité qui existe sans monde, sans objet, sans espace. L'amour consume le monde et laisse pressentir ce que serait un homme sans monde. » Et une autre voie est possible, qui fait place, dans le rapport à autrui, comme d'ailleurs dans le rapport à soi, à leur extériorité. De même qu'il n'y a pas de sujet séparé, de même, il n'y a pas de relation intersubjective abstraite de son contexte, qui n'est pas seulement un contexte, mais une partie prenante de la relation. C'est aussi le cas de la relation amoureuse. Et je propose d'explorer cette voie à partir de textes de Spinoza et de la lecture qu'en fait le philosophe et traducteur de l'éthique Bernard Potrat. Tout part de deux propositions du livre 3 de l'éthique, la proposition 15. N'importe quelle chose peut être par accident cause de joie, de tristesse ou de désir, et la proposition 35. Qui se rappelle une chose où il a pris plaisir une fois, désire en être maître dans les mêmes circonstances que la première fois où il y prit plaisir. La proposition 15 affirme que l'arbitraire le plus total commande à la naissance du désir amoureux. Il suffit de retrouver en quelqu'un un trait qui était déjà présent dans une cause qui autrefois nous causa du plaisir, ou de trouver quelqu'un proche d'un élément qui nous affecte de joie, pour être affecté de joie à sa vue et le désirer. Donc l'importance de l'environnement contigu, du monde d'objets, apparaît déjà. Elle est plus décisive encore dans la proposition 35. Et là, je vais laisser Bernard Potrat l'incarner dans l'histoire d'amour entre Y et Z. Histoire d'amour ancrée dans un milieu constitué d'objets, de couleurs, de sons et de circonstances. Je le cite, Y et Z étaient dans l'alcôve. C'était le jour ou bien la nuit, c'était l'hiver, l'été. Ils avaient marché dans un parc. Elle portait une robe à fleurs, il était mal rasé, le lit était dur, on entendait passer les trains. Cela, c'est ce qu'il y a autour. Ce sont les circonstances. Et, dit Bernard Potrat, Z, qui a pris du plaisir avec Y dans ces circonstances, voudra recommencer pour retrouver le même plaisir. Il veut en rejouir, dans les mêmes circonstances, exactement. Pourquoi ? Parce que chacune des circonstances ayant été vue par Z en même temps que la chose dont il s'est délecté, s'est trouvée associée à sa joie, et donc a été, par accident, cause de joie. En effet, Z, en jouissant de Y, s'est trouvé jouir en même temps de toutes les circonstances, et sa jouissance était jouissance de Y dans ces circonstances. Il faisait l'amour avec tout cet ensemble. Donc, une joie et un désir amoureux sont causés inséparablement par un homme ou une femme et des circonstances environnantes. La relation amoureuse a lieu dans une objectivité. Cela fait la fragilité de l'amour. Pour Spinoza, les amants ayant aimé la scène, ils veulent rejouer toute la scène. Et, dit Bernard Potrat, s'il manque une circonstance, l'amant sera triste. Ce n'est guère s'avancer que de dire il sera nécessairement triste. Car par quel miracle l'ordre de la nature resservirait-il la même scène à l'identique, la même lumière oblique dans les carreaux, la même natte de Y, elle s'est coiffée aujourd'hui, autrement, elle a cru bien faire, le même bruit de pluie sur le zinc. Un amour lié de manière si contingente d'une part à l'aimer et d'autre part à tant de circonstances aléatoires paraît précaire. Si ce qui constitue une vie amoureuse est un contexte, une situation, un ensemble d'objets, un monde, un genre de vie, on en comprend l'exposition à l'adversité. Tout ce qui peut être exil, mutation géographique et sociale. La relation amoureuse, comme toute relation constituant le rapport à soi, est ancrée dans une extériorité spatiale et relationnelle, et donc conditionnée politiquement et socialement. Cependant, si les circonstances et l'objectivité de la vie amoureuse en renforcent l'arbitraire Et la contingence, elle lui donne aussi une consistance en l'ancrant dans un monde de relations qui en soutiendront le souvenir, en l'ancrant dans un monde d'objets et de paysages durables, paysages qui vibreront toujours d'avoir été le cadre d'une histoire ou qui ont fait vibrer une rencontre qui, sinon, aurait pu être indifférente. Un amour purement intersubjectivité serait vide, sans objet, abstrait. Il suffit, pour s'en convaincre, de regarder comment l'amour est raconté et comment, lorsqu'il a été perdu, il est célébré. C'est tout le monde de l'amour qui est toujours chanté. Là, il suffit de faire référence à n'importe quelle chanson, à la littérature, par exemple au roman Ada de Nabokov, où le chant pour Ada, l'amour perdu, est inséparable du chant pour le château d'Ardis dans lequel cet amour s'était déployé. Terminons sur ce point en revenant à Platon et à Hannah Arendt, aux perspectives desquelles nous prétendions opposer la nôtre. Le même dialogue du Phèdre, dans lequel l'amour est dit sans lieu, l'amoureux sans attention pour ici, car il a la tête ailleurs, ce même dialogue sur l'amour donc est ancré dans un paysage, dans une géographie, plus qu'aucun autre de Platon. Comme s'il fallait offrir au regard un lieu bien particulier, inspiré, habité par les dieux, les muses et les cigales, pour pouvoir badiner, marivauder, et séduire en parlant de l'amour et de la philosophie, comme le font Socrate et son interlocuteur Phèdre. De son côté, Hannah Arendt, si elle indique le caractère acosmique et asocial des passions amoureuses, a aussi souligné à quel point l'exil ou le régime totalitaire peuvent détruire la possibilité d'une vie amoureuse. Par ailleurs, dans un texte sur l'écrivain Karen Blixen, l'auteur de La ferme amoureuse, dont on a tiré le film Out of Africa, elle indique, donc dans un texte sur Karen Blixen, justement, elle met en avant la place du cadre dans une relation amoureuse. Si la passion a un côté asocial et acosmique, elle dit que pour l'auteur, il s'agissait d'échapper à la société pour recevoir en partage une vie passionnée, la passion est inséparable de son cadre, Arendt dit, d'où la grande passion avec l'Afrique pour cadre parfait. Et La ferme africaine raconte en effet un amour ancré dans un lieu et qui contribue à l'inscription dans ce lieu en y ouvrant un espace d'expérience et d'histoire. Et à le lire, on voit que la narratrice, ce qu'elle aime en son amant, c'est l'Afrique. Elle dit que sa présence lui révélait l'Afrique. Elle dit que la plus grande joie qu'elle ait eue, c'est qu'il lui a fait survoler l'Afrique en avion. Et vraiment, l'amour est inséparable du lieu qui le rend possible, mais aussi du lieu qu'il ouvre et dont il fait un espace d'histoire et d'expérience. Donc, de manière générale, on peut dire que l'amour ouvre un monde, c'est-à-dire qu'il ouvre de nouvelles possibilités d'exister, de se relier aux lieux et aux autres. Arendt définit ainsi l'amour comme un événement à partir duquel une histoire ou un destin peut advenir, c'est-à-dire comme l'ouverture de possibles, et donc d'un monde. Qu'est-ce qu'en effet être au monde et avoir un monde ? C'est être lié à son environnement humain et non humain, de manière à pouvoir être en relation avec lui, et par là, avoir une certaine prise sur sa propre vie. C'est pouvoir, dans tel milieu, vivre une vie qu'on trouve sensée, et par laquelle on se sent concerné. Être au monde, donc, c'est être inscrit dans un cadre spatio-temporel et dans un ensemble de relations au sein desquelles, ou à partir desquelles, des expériences sont possibles. Dire que l'amour ouvre un monde ou dire que l'amour ouvre des possibilités est alors équivalent. Plutôt qu'une puissance de destruction du monde, on peut voir dans l'amour une puissance d'ouverture des possibles, de création de monde ou de résistance à la perte du monde. Dans une situation où les gens n'ont plus de prise sur rien, où plus rien ne leur semble possible, où ils ne peuvent plus interagir avec leur environnement, ni vivre d'histoire, où ils sont dans une situation de désolation ou de perte du sentiment d'exister, pouvoir tomber amoureux, c'est encore pouvoir trouver un ancrage dans le monde et y avoir une histoire. Être tombé amoureux, de même, c'est avoir eu une histoire et un ancrage dans un monde. Et s'il ne reste rien, il reste des lieux où l'existence de plus en plus inconsistante fut réelle. C'est ainsi qu'à la fin d'un roman de l'écrivain marseillais Jean-Claude Izot, Le soleil des mourants, le personnage qui a tout perdu et qui vit dans la rue depuis des années, avant de mourir, retourne sur le lieu d'une histoire d'amour qui fut pour sa vie un autre possible qu'il choisit de ne pas suivre. Marseille est un lieu où sa vie pouvait être autre, où sa vie fut réelle, reliée à d'autres vies. Elle donne à cette vie désaffiliée une inscription. Il n'y eut pas rien, puisqu'il y a encore un lieu, et pas des moindres. La plus belle chose que j'ai jamais vue, dit le jeune homme qui accompagne le personnage dans le dernier lieu qu'il s'est choisi, en haut d'un phare, en face des îles. Si l'amour peut ainsi donner une place dans le monde, c'est qu'il ouvre la possibilité d'une histoire et d'un monde, et, peu importe la part de fiction, c'est être au monde qu'être capable de fiction. Sous un rapport, l'amour est ancré dans un monde, ne serait-ce que dans un monde d'œuvres, car il faut une expérience du jeu, de la fiction, des récits, pour avoir un rapport avec la catégorie du possible, pour être capable d'écouter des histoires, d'en raconter, et d'imaginer pour soi une histoire possible. Pour vivre un amour comme un nouveau commencement, il faut pouvoir penser le possible. Il faut pouvoir percevoir dans l'autre un monde possible. Sous un autre rapport, l'amour ouvre un monde, car il est inscription dans une autre vie, dans un autre monde où autre chose est possible. C'est une puissance de l'amour de rouvrir le possible. On peut se référer sur ce point au texte de Gilles Deleuze sur le désir et sur le monde. D'un côté, dit-il en commentant Proust, lorsque je désire une femme, il se peut que je désire un paysage. Le monde possible nommé Albertine, c'est la plage et le déferlement des flots. De l'autre côté, il y a un monde, montré par exemple par le cinéma, lorsqu'il y a un lien entre des hommes, leurs actions et leurs paysages, lien qui traduit la capacité de s'approprier le réel, et donc sa propre vie, d'en faire une histoire à peu près sensée. À partir de là, on peut penser l'amour comme l'ouverture d'un monde où la vie puisse s'inscrire et où une histoire soit possible. L'amour, comme la fréquentation des discours ou des fictions, donne la puissance de percevoir et de créer du possible et des histoires. Je vous remercie.
Bonjour, je m'appelle Solène. Je viens du lycée Sonia Delaunay à Villepreux. Et on a une question pour Valérie Gérard, qui a parlé des conditions à remplir pour tomber amoureux. La question serait, du coup, peut-on tomber amoureux de n'importe qui si toutes les conditions sont réunies et favorables ?
Parce que je ne pourrais pas répondre avec une telle radicalité à votre question, mais effectivement, j'ai dit ça en parlant de Spinoza, qui a quand même cette thèse dont parlait Fabrice tout à l'heure, dans son dialogue en s'amusant avec, qu'il y a un certain arbitraire quand même dans le fait de tomber amoureux. Il y a une certaine contingence, il y a une grande part de hasard et d'aléatoire. Et c'est vrai que si on avait raté le train, l'histoire serait différente. Après, je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire, tomber amoureux n'importe qui, si toutes les conditions se réunissent, parce que je ne pense pas que chacun on ait une liste de critères et que le premier qui les remplisse soit le bon. Encore une fois, le hasard a beaucoup plus d'importance que ça.
Alors moi, c'est Benoît Gomer et je suis de Montauban pour le moment. On dit souvent que quand on tombe amoureux en même temps du pays dans lequel on est. Alors, est-ce que ça a un sens avec ce que vous venez de dire ?
Oui, c'est exactement dans cette ligne que je parlais. Ça peut être un pays, ça peut être une ville. Le narrateur de La recherche du temps perdu, en aimant Albertine, il aime la mer et les flots, mais en voyant la mer et les flots, il pense à Albertine, et finalement, les deux se fondent, et le pays ou le lieu et la personne aimée sont liés, ça ne paraît pas dissociable. Donc ça doit faire référence au type d'expérience dont vous parlez.
Claude Agège.
Voilà la chose que j'aimerais dire. Si l'on considère, en simplifiant beaucoup, sinon même en caricaturant, qu'il y a agapé, qu'il y a eros, il se trouve que, sans le vouloir, et c'est la spontanéité de la chose qui me séduit, j'ai été amené à être le seul à peu près à développer plutôt la dimension eros. Ce qui veut dire que la dimension ouverture sur une finalité procréatrice à travers Diotime, et d'ailleurs, si je peux ajouter, la tradition rabbinique, et puis aussi la tradition chrétienne, la finalité procréatrice de l'amour, en gros, nous sommes du côté d'agapé. En revanche, peut-être parce que j'ai choisi de dire comment les langues expriment « je t'aime », c'est plutôt la direction Eros que j'ai développée. Et ces deux tentations, ces deux directions, ces tentations, bien entendu, articulées l'une sur l'autre, lorsque un homme qui aime une femme fait avec elle un enfant, il est bien évident que, comme peut-être diront les religieux, l'a voulu Dieu, le plaisir qu'il y prend l'encourage à la création. Mais tout de même, ce qui me frappe et sur quoi j'aimerais avoir les opinions, c'est que depuis des millénaires, le culte, à travers la littérature, à travers les échos sur les expériences amoureuses, oraux ou écrits, d'Eros, le culte du plaisir amoureux, non nécessairement articulé ni sur une dimension éthique, ni sur une dimension d'éternisation, est une donnée fondamentale de l'espèce.
Mais déjà, est-ce qu'il faut absolument opposer Eros et Agapé ? Il y a eu un livre très célèbre en son temps d'un certain Nigren qui avait écrit justement Eros et Agapé et qui essayait de les opposer radicalement. Mais quand on a parlé de Platon, bon, Diotime parle de procréation, non pas dans l'ordre de l'animalité, mais dans l'ordre de la spiritualité. Moi, je n'ai pas parlé de la procréation uniquement naturelle ou biologique, hein, mais que l'amour engendre. Ça, c'est la grande thèse de Platon, mais le terme qui est employé, c'est Eros, ce n'est pas du tout Agapé. Donc c'est pour ça que je dis, est-ce que l'Eros désigné, c'est vrai, la passion telle qu'elle se joue d'abord dans les corps, hein, dans les personnes, mais Platon met en avant qu'on ne peut pas arracher l'érotique, le plein déploiement de l'érotisme, c'est aussi une fécondité ensemble.
Bonsoir, je m'appelle Olivier Steiner. Bonsoir. Et j'aurais voulu m'adresser à Fabrice Hadjadj et vous poser la question de l'amour dans une dimension homosexuelle ou l'amour homosexuel. Plus précisément, je voudrais vous demander si vous pensez que l'union de deux femmes ou l'union de deux hommes puisse engendrer de la beauté, même si elle ne peut pas engendrer d'enfants.
Fabrice Hadjadj.
Alors, j'avoue que j'ai un peu de mal. C'est vrai que c'est un terme dont on hérite depuis quelques dizaines d'années, mais qui est un terme récent quand même, hein. C'est précisément le terme d'homosexualité. Est-ce que ce terme est très pertinent pour désigner cette relation-là ? Et je dis ça, bien sûr, sans porter aucun jugement de valeur, hein. Je parle de est-ce qu'il y a une pertinence du mot ? Les Grecs n'employaient jamais ce terme. Les Grecs pensaient précisément que la relation entre deux hommes ou deux femmes était une manière de s'éloigner de la sexualité et de s'éloigner de quelque chose qu'on pouvait avoir en partage avec les autres animaux, comme dirait Aristote. Donc, ce qui est invoqué, par exemple par Pausanias, hein, qui dit bien l'amour entre deux hommes est d'une certaine façon plus céleste que l'amour d'un homme et d'une femme parce qu'il y entre dans cet amour d'un homme et d'une femme, une dimension biologique, une dimension animale, il dit bien, mais donc ça n'est pas de la sexualité, c'est céleste, donc c'est dans un ordre d'émulation morale, dira Plutarque. Donc la question est la suivante, est-ce que dans ce type de relation-là, il n'y a pas malgré tout aussi œuvre commune ? Si on prend un couple célèbre et chaste, moi je pense à certaines personnes dans le théâtre, hein, voyez, vous pensez, je vais pas dire de nom, mais enfin bon, on voit bien qu'il y a un travail commun, d'accord. Alors dire qu'il s'agit de sexualité, je suis très réticent. Dire qu'il y a amour, je pense qu'on peut le dire, c'est quand même une évidence, si on ne veut pas le nier, mais je crois justement que cet amour a quand même temps aussi comme horizon, justement, une fécondité commune. Ce n'est pas l'enfant, mais s'il n'y a pas cette fécondité commune, alors on est dans un pur narcissisme, ce qui peut beaucoup plus facilement d'ailleurs arriver entre deux hommes ou entre deux femmes, et c'est là où il y a quelque chose qui est extrêmement périlleux. Donc, et on voit bien d'ailleurs que ces couples de deux hommes ou de deux femmes tiennent en raison même d'une certaine fécondité commune.
Est-ce que l'amour et la passion dans un couple marié depuis longtemps changent-ils au cours du temps ? Ou est-ce qu'on a toujours la même passion ?
Alors, je vais vous parler d'expérience, hein, parce que je ne sais pas, je ne peux pas qu'avoir pour les autres. Après, je ne suis pas marié depuis si longtemps. Il faudrait demander à des personnes après plus âgées. Moi, j'ai que 11 ans de mariage, ou 12 ans, enfin, je vois bientôt. Oui, d'abord, ça change. Ça, c'est sûr. C'est une évidence. On ne peut pas dire au départ, il n'y avait pas d'histoire. On se rend compte, on est effectivement peut-être même dans une sorte de fièvre, de découverte. Mais l'erreur serait de croire que cette transformation est forcément une dégradation. Or, moi, ce que j'ai vécu objectivement, en fait, c'est que c'était vraiment, vraiment l'inverse. J'ai l'impression d'avoir vécu d'abord une purification, c'est-à-dire que vraiment, tout à l'heure, Claude Agey disait, mais je pense par facétie, en disant que quand on se marie, on abandonne tous les risques, mais au contraire, c'est le plus grand risque. Et puis, c'est une union... oui, presque à hauteur de mort, quoi, parce qu'il faut vivre aussi une certaine mort à soi-même. On est avec l'autre, on se tourne vers l'autre, etc. Donc la première purification, c'est que on apprend vraiment à être avec l'autre, à se retrouver aussi dépossédé comme ça. Moi, j'étais un enfant unique, donc j'étais toujours un peu refermé sur moi-même, sur mon monde, sur ma sphère, qui était une sphère liée à la littérature, d'ailleurs. Et à chaque fois, j'ai été arraché à moi-même pour être rendu, d'une certaine façon, au réel tel qu'il était donné. Donc, dans cet amour, c'est ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que... il y a une chose qui est extraordinaire. On a souvent... Quand on se marie et que ça dure, il y a quelque chose qui s'installe, c'est vrai, qu'on appelle la vie quotidienne, la vie domestique. Alors bien sûr, il y a une grande modification qui se fait dans le couple, c'est quand ils ont des enfants et il y a une joie nouvelle. Hein. Ça, c'est une joie extraordinaire. Moi, je m'imagine, j'ai jamais eu le projet d'avoir des enfants, hein. Curieusement, mais bon, et j'ai été stupéfait de la joie. Je dis toujours, pour moi, l'enfant, c'est le couronnement de la vie sexuelle. Enfin, voilà, et c'est la joie pour moi la plus haute. Depuis que j'ai eu des enfants, c'est pas l'orgasme qui est le couronnement de la vie sexuelle. Je pense que c'est une erreur, ça. Donc ça c'est nouveau, mais il y a cette question de la vie quotidienne, la vie de tous les jours. On n'est pas forcément dans le roman de la rencontre, des choses exceptionnelles, du neuf, de l'inédit. Il y a des choses qui reviennent tous les jours. Alors on pourrait dire, c'est la fin de l'aventure. Je pense que c'est exactement le contraire, parce que peut-être que c'est la fin de l'aventure au sens d'une aventure extensive, on passerait d'une chose à l'autre. Voyez, mais il y a une aventure qui est, je dirais, intensive, c'est-à-dire que tout d'un coup... on apprend à contempler la bonté du quotidien, la bonté des choses les plus simples. Il faut accepter une aventure qui est une aventure où le regard se purifie, se creuse, et où les petites choses quotidiennes, tout d'un coup, les petits gestes quotidiens, deviennent des événements. C'est comme un regard métaphysique, c'est-à-dire qu'on voit la merveille d'être. Les poètes ont chanté l'aventure amoureuse, mais les grands poètes ont su chanter aussi les choses les plus quotidiennes dans l'amour. Je pense à Guilvic, par exemple. Voilà, donc ce qui est magnifique, ce qui change, c'est que l'amour s'approfondit, devient, je dirais même, plus contemplatif, plus attentif, sinon ça ne tient pas de toute façon.
Amour, toujours.
C'était le forum Le Monde, Le Mans, avec aujourd'hui Claude Agey, linguiste, Fabrice Adjadj, écrivain et philosophe, et Valérie Gérard, philosophe. Débat animé par Jean Birnbaum. Prise de son, Frédéric Cayrou. Réalisation, Isabelle Huel. La semaine prochaine, il sera question du prix des sentiments avec Pascal Bruckner, écrivain et essayiste, Eva Illouz, sociologue, Jean-Pascal Gaillan, économiste. Thank you.
Thank you.